Hommage à Aldo Naouri avec vous, Ruben Honigmann, bonjour.
Bonjour Elsa. En effet, aujourd'hui sur Academ, on a mis en avant des contenus liés à Aldo Naouri, ce grand pédiatre qui vient de décéder il y a quelques jours et que nous avons reçu régulièrement à Academ, ce qui publiait souvent des livres, et aussi parce que nous avons réalisé son portrait, comme on le fait avec toutes les personnalités du franco-judaïsme qui sortent un peu du lot. C'est un exercice toujours un petit peu périlleux, parce que parfois c'est à leur demande, parfois c'est nous qui leur demandons. Et on sait très bien, au moment où on l'enregistre, que ça va essentiellement servir après leur mort, parce que c'est à ce moment-là souvent qu'on s'intéresse à la vie des gens. Mais c'est un exercice important, et vraiment je recommande aux gens de regarder, d'écouter ces portraits qui ont été souvent réalisés et présentés par Antoine Mercier, que tout le monde connaît maintenant par la chaîne Mosaïque, mais qui était d'abord le présentateur phare d'Academ pendant 10 ans. Et Aldo Naouri fait partie de cela. Pourquoi est-ce que je recommande ça? Parce que c'est des entretiens très longs, les gens racontent leur vie, racontent les nœuds de leur existence. Et aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, en fait, vous avez sur les réseaux sociaux les gens qui sont contents, les gens qui ne sont pas contents. Les gens qui disent c'était un réac, c'était pas un réac. C'est passé la même chose la semaine dernière avec Ofer Bronstein. Voilà. C'est quelqu'un qui a consacré toute sa vie à une cause, qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Et puis les gens, ils mettent like ou pas like. Et je trouve ça un peu obscène. Et dans le cas d'Aldo Naouri, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Il y a des gens qui, j'ai même lu sur les réseaux sociaux, des gens qui se réjouissaient de la mort de cette personne qui a été effectivement classée comme réactionnaire à son époque parce qu'il était donc un grand pédiatre. Il a beaucoup travaillé aussi sur la psychologie de la famille, de la place de chacun dans la famille. Et il est venu après mai 68 pour remettre un peu de l'ordre et des limites dans les rapports familiaux et pour redonner une place effectivement au père et à l'autorité dans les familles. Et il a raconté ça, il a écrit beaucoup sur ça, et qu'on soit d'accord ou pas d'accord, qu'on trouve ça réactionnaire ou pas réactionnaire, ce qui, je trouve, est intéressant, c'est de s'intéresser justement à la pensée qu'il y a derrière, et à la richesse et à la complexité de cela. Et moi, j'ai retenu 3 choses dans ce long entretien qu'on a intitulé « Je suis un juif de nulle part ». J'ai retenu 3 choses dans ce récit qu'il fait à Antoine Mercier. La première, c'est qu'il a grandi sans père. Aldo Naouri, alors qu'il a consacré toute sa vie à rechercher, à sonder la place du père, justement, dans les familles. Et j'avais oublié ça, c'est qu'il était le 10e enfant d'une famille juive libyenne et il était dans le ventre de sa mère quand son propre père est mort. Donc, je vous laisse imaginer l'ambiance qu'il y avait à la maison. Une famille juive très religieuse, très pieuse, il raconte ça. Et il n'a jamais connu son père, mais il a toujours vécu dans le récit que sa mère faisait de son père. C'est ça qui l'a bercé, c'est là-dedans qu'il a été élevé. Et donc, il dit que, d'une certaine manière, c'est comme s'il avait continué à creuser ce récit, toute sa vie. La deuxième chose qui singularise spécifiquement Aldo Naouri, c'est qu'il vient donc de Libye, de Benghazi exactement, et qu'il a grandi dans un dialecte que plus personne ne parle, qui est le judéo-libyen. C'est une variante spécifique du judéo-arabe. Moi, je connais une seule personne qui est juive de Libye. Je ne sais même pas si elle parle ce dialecte. C'est très, très rare. Et donc, il raconte que quand il a commencé sa psychanalyse, à l'âge où son père est mort, parce qu'il s'est dit, bon, j'ai toujours vécu dans cette vie d'un père mort avant ma naissance. Maintenant, j'ai l'âge de mon père quand il est mort. Il a commencé la psychanalyse, mais vous savez comment ça fonctionne. Le langage parle de lui-même et très souvent, ça venait en judéo-libyen. Et il raconte dans l'entretien qu'il y a des séances entières qui se faisaient en judéo-libyen, le psychanalyste comprenait rien du tout, mais ça parlait en lui. Et il dit qu'il a grandi avec cette singularité extrême, parce qu'après la Libye était en Algérie française, puis en France, où il était pétri d'une langue incommunicable. Et là, cette phrase dans l'entretien, il dit « Cette singularité, soit on en fait quelque chose, soit on en crève ». Et je trouve que ça résonne avec... on n'a pas besoin de judéo-libyen pour savoir de quoi ça parle. On est tous un peu en prise avec ça, cette singularité, cette chose où on est un peu à part, à l'écart, et ça nous détruit, effectivement, mais on peut aussi en faire quelque chose. Et il raconte comment lui, il en a fait quelque chose. Et le troisième aspect que je retiens de cet entretien, c'est son rapport à la tradition juive. Donc, il a grandi dans une famille très pieuse. Il dit que ses frères connaissaient toute la Torah par cœur. Ils étaient très, très calés. Mais que lui, voilà, il a rompu avec la pratique juive assez tôt. Il dit qu'il a rompu lorsqu'il a fait sa première autopsie en fac de médecine. Il y a quelque chose qui a disparu en lui à ce moment-là. On peut appeler ça la foi. Ce n'est pas le mot qu'il prononce, hein, mais il dit qu'il y a quelque chose qui s'est évaporé quand il a réalisé sa première autopsie, mais il est resté toujours très en tension et avec une grande fascination pour la tradition juive, pour les textes notamment juifs. C'était un auditeur et un abonné très sourcilleux d'Akadem. Il nous écrivait régulièrement. C'était très touchant parce que dès qu'il ne recevait pas la newsletter exactement à l'heure qu'il voulait, il disait « Mais quoi, vous m'avez désabonné ou quoi ?» Ou quand il manquait un document ou qu'il y avait une coquille, il était très, très pointilleux. Et il raconte au début de l'entretien avec Antoine Mercier combien, dans les dernières années de sa vie, vraiment tout son intérêt, toute sa passion intellectuelle s'est recentrée sur la chose juive et sur ce qui lui manquait, en fait. Voilà. C'est un très grand savant, c'est un homme très, très cultivé. Écoutez l'entretien, parce qu'il parle un français aussi délicieux, comme ne le parlent que les gens qui viennent d'ailleurs, justement. Un français d'un autre siècle, où chaque mot est sous-pesé. Et c'est pas une personne comme ça qui s'est rassasié à la fin de sa vie en disant « Voilà, je connais tout ». Non, il s'est remis à tout ce qu'il avait oublié, à tout ce qui lui manquait, à savoir, en l'occurrence, toute la tradition juive dont il s'abreuvait vraiment intensément. Et voilà, vous pouvez retrouver tous les contenus de et avec Aldo Naouri en une du site d'Akadem. Je vous propose d'écouter un extrait de cet entretien.
Cette langue-là et cette culture a été ce qui m'a habité suffisamment profondément pour avoir déterminé tout le reste de ma vie. Je veux dire que, par exemple, je fais une psychanalyse, je suis sur un divan. Eh bien, une psychanalyse, ça consiste à dire ce qui vient par la tête, ce qui vient dans la tête, et les associations amènent ceci et on fouille. Eh bien, quelquefois, je me rendais compte que les associations en français, puisque mon analyste n'entendait que le français, étaient bloquées, finissaient en impasse. Je traduisais un ou deux mots dans ma langue maternelle et je repartais sur quelque chose de tout à fait nouveau, à un point tel qu'il m'est arrivé d'avoir des séances entièrement dans cette langue. Et le monsieur n'entendait rien, mais peu importe, le travail se faisait. Donc, si vous voulez, ça crée cette solitude, ça crée cette singularité avec laquelle il faut faire. C'est-à-dire, soit on l'assume et on en fait quelque chose, soit on en crève. Il n'y a pas le choix. Et donc, j'ai choisi d'en faire quelque chose.